Bonjour. On va célébrer en ce mois de septembre le 20e anniversaire d'Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. L'occasion de plonger dans les archives de l'émission, en presque 800 reportages réalisés en France et à travers le monde, 96 pays visités tout de même, Interception a exploré, enquêté et finalement documenté bien des domaines. Et la défense de l'environnement, qui est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des Français, a fait l'objet, directement ou non, de plus d'une cinquantaine de reportages. Dès septembre 1999, Frédéric Bourgade nous faisait découvrir les circuits courts inventés par certains agriculteurs occitans pionniers pour distribuer leurs produits. En février dernier, Benjamin Mathieu nous montrait, dans la même région, comment d'autres agriculteurs essayent de se passer de glyphosate. Et en 2007, à l'occasion de la publication du quatrième rapport du tout jeune GIEC, Nathalie Fontrelle, inlassable défenseur de l'environnement à la rédaction, nous a emmenés dans les laboratoires de quelques-uns des scientifiques qui déjà tiraient la sonnette d'alarme. Ici, un ornithologue constate que les hirondelles ne migrent plus. Là, un glaciologue tire les conclusions de son observation de la banquise. Et tout ça, à l'époque, n'était guère encourageant. Il y avait déjà le feu à la maison. Le climat sous pression, c'est un reportage de Nathalie Fontrelle diffusé le 28 janvier 2007.
Bonjour. Il fait chaud, il fait froid, le climat s'emballe, les oiseaux migrateurs en perdent leur boussole. Et la semaine qui s'ouvre devrait nous en apprendre encore plus sur ce que l'avenir nous réserve. C'est demain que se retrouvent à Paris les meilleurs scientifiques mondiaux sur le réchauffement climatique. Réunis au sein du GIEC, ils rendront public leur quatrième rapport, très attendu, vendredi prochain. Cela pourrait créer un choc dans l'opinion, car ces conclusions sont bien plus graves que celles de nos précédentes publications, dit le président de ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Dans leur dernière étude, ils prédisent une augmentation de la température de 1,4 degré à 5,8 degrés d'ici à 2100, avec une valeur probable de 3 degrés. 5,8 degrés en plus, c'est la fourchette haute, celle qui nous guette si on ne réagit pas. 1,4 degré, c'est une estimation qui prend en compte à la fois un changement radical de nos habitudes, mais aussi d'éventuelles bonnes surprises, car la nature, dans certains cas, se régule elle-même. Comment notre planète va-t-elle s'adapter? Quelles sont les certitudes des chercheurs et leurs dernières découvertes? Voici les questions auxquelles nous avons voulu répondre ce matin. Nathalie Fontrelle suit depuis de nombreuses années l'environnement à Radio France. Elle a pu franchir les portes des laboratoires de certains membres du GIEC qui travaillent sur cet effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Sans cette couverture thermique, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés. Mais on le sait, nos activités humaines, transport, industrie, agriculture, aggravent cet effet et il est urgent de réagir. Voici Interception, le climat sous pression.
Alors, nous arrivons chez Philippe Dubois. Donc Philippe Dubois, il est ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux et surtout, il a écrit un livre sur le climat dans lequel il a répertorié tout ce que la nature donne déjà comme signe de réchauffement climatique. Je vois pas de sonnette. C'est un petit pavillon à pontoise. On va peut-être entrer alors. Ah bah le voilà. Philippe ?
Bonjour.
Bonjour.
Entrez.
Bonjour.
Bonjour, vous avez des gants ?
Oui, j'ai froid. Pourtant, mais moi, j'ai toujours froid, même avec un réchauffement climatique.
Oui. Pourtant, il ne fait pas très très froid aujourd'hui.
Non.
Les oiseaux chantent. Vous n'entendez pas la mise en charbonnière, là ?
Ah oui.
Elle chante là, juste à côté.
C'est pas déjà la saison des amours?
Si, elle est avancée de plus en plus. Les maisons charbonnières chantent depuis une quinzaine de jours, là, déjà. Alors que théoriquement, elles chantent à partir de fin janvier, début février. Et parce qu'il fait très doux, donc...
Ouais.
Voilà, il y a déjà des bourgeons un petit peu, vous voyez. Regardez, il y a des bourgeons sur ce marronnier. Vous voyez?
Suivez-moi.
Voilà le petit jardin.
C'est soleil.
Philippe Dubois, est-ce que la nature nous donne déjà des signes que le climat est en train de se réchauffer.
Oui, complètement. Elle nous en donne depuis, on va dire, à peu près une trentaine d'années. D'abord de façon très subtile, que seuls quelques scientifiques avaient remarqué en se posant des questions sans avoir de réponse. Aujourd'hui, on voit très bien que l'évidence nous saute aux yeux et que c'est maintenant des milliers et des milliers de signes à la fois du monde végétal et animal qui montrent bien qu'il se passe quelque chose au niveau du changement climatique. C'est très clair.
Alors si on prend parmi les oiseaux, quel exemple vous semble le plus flagrant ?
Il y en a beaucoup, mais ce qui est quand même significatif, c'est les hirondelles. Il y a eu des hirondelles très tardivement, jusqu'au début décembre. Et puis, en fait, on a eu une information d'ailleurs assez récemment, dans deux petits villages de Bretagne, l'un du Finistère, l'autre de Loire-Atlantique, depuis plusieurs années, maintenant une dizaine d'années pour certaines, eh bien, il y a des micro-noyaux d'oiseaux hivernants qui ont décidé de ne pas partir et qui hivernent donc sur place. Toujours dans les mêmes villages, on peut supposer que ce sont des populations tout à fait locales hein, qui ont complètement modifié leur stratégie et qui, bénéficiant effectivement d'hivers plutôt doux, ont décidé de ne plus migrer, de rester sur place. Alors, c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'homme, en tout cas, qu'on voit ça chez nous.
Mais finalement, ça, on pourrait dire que ce sont des aspects positifs du réchauffement climatique pour les oiseaux, parce qu'ils dépensent moins d'énergie, ils sont obligés d'aller moins loin pour passer l'hiver. Est-ce qu'il y a des signes inquiétants de l'effet du réchauffement climatique sur les oiseaux ?
Alors, effectivement, là, on a parlé des effets positifs sur ces oiseaux. Il est clair que pour les oiseaux migrateurs, les grands migrateurs, ceux qu'on appelle les migrateurs transsahariens, qui traversent la Méditerranée puis le Sahara pour hiverner en Afrique, là, c'est beaucoup plus difficile. D'une part, parce qu'on sait que la désertification progresse de plus en plus, et donc la distance à traverser, la distance désertique, est beaucoup plus longue qu'autrefois, et donc, évidemment, ils sont programmés comme une voiture, ils ont pas suffisamment de fuel, donc ils peuvent tomber en panne sèche, si je puis dire, au beau milieu du désert. Et puis surtout, et c'est très connu maintenant, on le sait, c'est que les oiseaux qui migrent, qui vont hiverner en Afrique équatoriale, par exemple, lorsqu'ils reviennent au printemps, ils reviennent toujours à la même date. Ils revenaient jusqu'à présent au moment même où, lorsqu'ils allaient élever et nourrir leurs jeunes, ça correspondait exactement au pic d'émergence des insectes, des chenilles, etc. Et ce pic d'émergence des insectes, du fait des changements climatiques, du fait des printemps plus doux, s'est avancé de 15 jours. Mais les oiseaux n'arrivent pas 15 jours plus tôt. Alors, ils se dépêchent, évidemment, quand ils arrivent, de se reproduire le plus vite possible. Mais malheureusement, ce décalage n'est pas comblé. Ce qui fait que les oiseaux se retrouvent dans un stress physiologique important, les adultes, avec une mortalité plus importante. Et surtout, ils trouvent moins d'insectes pour nourrir leurs jeunes. Et ce qui entraîne, évidemment, une mortalité. Et sur le long terme, on s'aperçoit, c'est le cas du gomme-mouche noir qui a été très étudié aux Pays-Bas, ou du pouilleux siffleur, des oiseaux dont on voit les populations s'effondrer, alors que le milieu n'a absolument pas changé. Et on est extrêmement inquiet sur le devenir de ces espèces. Je vous en ai cité deux, mais il y en a des dizaines et des centaines. Donc c'est vraiment un véritable problème à l'échelle continentale qui se pose pour ces oiseaux. Mais il n'y a pas que les oiseaux, évidemment.
On a parlé là d'espèces plutôt sympathiques. Mais le réchauffement climatique va également favoriser l'émergence, la prolifération peut-être de moustiques, vecteurs de maladies.
Alors c'est aussi quelque chose qui est assez inquiétant aujourd'hui, c'est qu'effectivement des moustiques d'origine tropicale, vecteurs de maladies, ne serait-ce que le paludisme, ne serait-ce que la dengue ou par exemple la fièvre catarrhale ou maladie de la langue bleue chez le mouton, que ces espèces de moustiques à l'origine tropicale sont aujourd'hui parfaitement capables de survivre dans des conditions disons plus tempérées, méditerranéennes. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le paludisme jusqu'au début du XVIIIe siècle. On risque de nouveau, au cours de ce XXIe siècle, de retrouver des foyers de paludisme ici et là en Europe de l'Ouest. Et ce, du fait des conditions climatiques qui sont beaucoup plus favorables à ces espèces que par le passé.
Allez-y.
Philippe Dubois nous guide vers son bureau. La bibliothèque croule sous les ouvrages consacrés aux oiseaux. Et lorsqu'il s'assoit à sa table de travail, il a là, sous les yeux, juste derrière la vitre, une mangeoire accrochée à une branche d'arbre. Mais il la remplit de plus en plus rarement. Il fait souvent trop chaud pour nourrir les oiseaux. Et bien sûr, on trouve des dizaines d'enregistrements de chants d'oiseaux dans sa discothèque. Parmi eux, celui de la fauvette à tête noire, un petit piaf à qui le réchauffement climatique a déjà joué une drôle de farce.
C'est quand même un de nos meilleurs chanteurs.
Il est joli ?
Vous savez, on peut pas être beau et bien chanter. Il a un plumage plutôt... une petite calotte noire, c'est pour ça qu'on l'appelle poète à tête noire.
Beaucoup de grands chanteurs ont des livrées modestes. Le rossignol, par exemple, est tout brun. Il passe totalement inaperçu. Et à contrario, des oiseaux très très colorés sont de piètres chanteurs.
Quand on est beau, on chante faux.
Voilà, c'est ça. On peut pas être beau, bah, c'est la Star Academy. Hein.
Voilà, allez, hop. Voilà, il faut que je trouve 13. Le voilà. C'est très beau. Là, c'est son alarme. Mais après, vous allez voir. Un très, très très beau chant. Bon, ça c'est moche, ça c'est quand il est pas content.
Je croyais qu'il chantait bien.
Oui, vous allez voir. Voilà, le voilà qui est parti. Voyez, c'est un des meilleurs chanteurs avec la grive musicienne et le rossignol, le merle noir. Il y a vraiment quatre espèces qui sont nos meilleurs chanteurs et lui en fait partie quand même.
Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Alors, on s'est aperçu que en fait, les oiseaux en Allemagne, en Europe centrale, en fait, avaient l'habitude jusqu'à présent d'hiverner sur le pourtour méditerranéen. Et puis, à la fin des années 70, début des années 80, on s'est aperçu qu'au lieu d'aller hiverner en Méditerranée, en Afrique du Nord, ils hivernaient maintenant en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Parce qu'il y faisait plus doux aussi, et que la température étant de plus en plus douce, ils y trouvaient des conditions à peu près équivalentes à celles qu'ils auraient trouvées sur le pourtour méditerranéen. Au printemps, les oiseaux ont une distance à faire entre l'Angleterre et l'Allemagne, qui est évidemment bien inférieure à celle qu'ils ont à faire entre l'Afrique du Nord et l'Allemagne. Donc ça veut dire premier revenu, premier sur les meilleurs sites de reproduction, et voyage plus court, ça veut dire je reviens en meilleure forme que lorsqu'évidemment il a fallu que je me traverse la Méditerranée. Alors on a fait une expérience extraordinaire. On a capturé des oiseaux qui hivernaient en Grande-Bretagne et qui étaient originaires d'Allemagne, on les a fait se reproduire, et les jeunes, qui n'avaient jamais migré de leur vie, on les a mis dans une espèce de planétarium, parce qu'il faut savoir que la poète à tête noire est un migrateur nocturne, donc il migre de nuit. On les a mis dans un planétarium avec des étoiles, des fausses étoiles, et par terre, on a tapissé tout ça d'un papier blanc, et sur ce papier blanc, on a mis de l'encre noire sèche pour voir comment les oiseaux, la nuit venue, puisqu'on les a mis dans des conditions expérimentales de nuit, dans quelle direction ils allaient se déplacer. Et au matin, quand on a regardé, on s'est aperçu qu'il y avait plein de petites traces de pattes d'oiseaux direction nord-ouest, c'est-à-dire vers la Grande-Bretagne. On a donc conclu que cette capacité à migrer vers le nord-ouest était désormais innée, elle était acquise, elle était inscrite...
Dans les gènes.
Dans les gènes, exactement. Et qu'en quelques générations, il y avait une véritable mutation génétique qui s'était produite, c'est-à-dire que ces oiseaux qui n'avaient jamais migré encore étaient spontanément capables de migrer vers le nord-ouest.
Carotte de Domsay, en Antarctique, qui doit être prélevée à peu près 400 mètres, entre 400 et 500 mètres de profondeur. Donc je vais vous montrer comment on fait une lame mince, pour regarder la taille, la forme des cristaux et leur orientation cristalline. Donc pour ça, on utilise une simple scie de boucher. Et là, on peut voir les bulles quand même sur celle-là, justement parce qu'elles sont prises à une profondeur qui n'est pas très très profonde, et donc on voit les bulles d'air quand même dedans. C'est minuscule. Voilà.
Au laboratoire de glaciologie de Grenoble, il faut être armé contre le froid pour étudier le réchauffement climatique. Maureen Montagna porte une grosse parka pour résister au moins 15 degrés, mais elle travaille à main nue pour découper les carottes de glace, des cylindres de 50 cm à 1 mètre de long. Cette glace, prélevée dans les glaciers ou dans les calottes polaires, témoigne du climat du passé. Plus on creuse profondément, plus on remonte le temps.
C'est quand même pas paradoxal de travailler sur le réchauffement climatique à des températures de moins 15 à moins 18.
Hein. Ouais, tout dépend du matériau qu'on utilise.
Enfin, cet outil, c'est quelque chose qui nous permet de couper micromètre après micromètre, en fait, d'où son nom, le microtome. Un peu comme une lame de rasoir.
On les voit mieux, les petites bulles.
Là, oui, là, on a enlevé les imperfections de surface, donc on voit un peu plus dans la profondeur. Oui. Effectivement, pour voir les bulles, l'échantillon n'était pas trop mal choisi.
Les échantillons sont analysés dans un autre laboratoire à quelques mètres de là, où nous attend un autre chercheur passionné par les bulles d'air emprisonnées dans la glace.
Dominique Reynaud, expliquez-nous comment ces bulles se sont retrouvées emprisonnées dans la glace.
Alors ça, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez de la neige qui tombe à la surface, puis elle se tasse. Alors les petits grains, ils vont essayer de, comme ça, d'être le plus proches les uns des autres. Et puis les grains, quand ils s'interpénètrent, on a des pores qui se ferment, dans lesquels le gaz qui était à l'extérieur se trouve emprisonné. Et donc les petites bulles se sont formées, elles se retrouvent dans un matériau complètement étanche, et ça met plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années avant que la neige se transforme en glace. Et donc, le processus prend un certain temps. Mais après, on a du gaz qui est emprisonné et on fait le merveilleux pari que la composition de l'air qu'on a emprisonné dans la glace, elle se conserve pendant des centaines de milliers d'années. Et on pense pratiquement que le pari est gagné parce que on a fait de nombreux tests en laboratoire, on a mesuré de la glace qui s'est formée dans des conditions tout à fait différentes, et on a toujours trouvé les mêmes variations, les mêmes aux mêmes périodes. Et c'est comme si on mesurait finalement l'atmosphère du passé.
Et plus on descend en profondeur, en fait, plus on remonte le temps.
Tout à fait, oui. Et donc actuellement, les plus grandes séquences, c'est 800 000 ans.
Ces bulles, elles témoignent de quoi? Ou plutôt le gaz, les gaz, que ce soit le méthane ou le CO2, ça témoigne de quoi?
Alors, ça témoigne d'abord de la composition de l'atmosphère. Est-ce que, par exemple, pendant les périodes froides, la composition de l'air était différente d'aujourd'hui? Et une des choses qui nous a intéressés dès le départ, c'était les gaz à effet de serre. On avait eu cette idée, il y avait un savant suédois qui s'appelait Arrhenius, en 1896, vous vous rendez compte, 1896, il avait fait une grande publication où il avait raconté que finalement, vraisemblablement, la raison pour laquelle on avait des périodes glaciaires, c'était parce que le CO2 était plus faible. Et c'est à peu près 80 à 90 ans après que dans ce laboratoire et dans un autre laboratoire à Berne, des mesures ont été faites. On a pris de la glace qui s'est formée il y a 20 000 ans en époque glaciaire, on l'a comparée avec la composition d'aujourd'hui, et on s'aperçut que la prédiction d'Arrhenius se révélait exacte.
Mais comment avez-vous établi le lien entre la concentration de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température?
Alors, la glace, elle a plein de choses. D'abord, elle a un témoin de l'atmosphère avec les petites bulles. Deuxièmement, sa composition, la composition de la glace. La glace, c'est des molécules d'eau, H2O, c'est solide. Et dans H2O, vous avez des hydrogènes, vous avez des oxygènes. Il y a des oxygènes lourds, il y a des oxygènes légers. Il y a des hydrogènes lourds, il y a des hydrogènes légers. Et il se trouve que le rapport entre les atomes lourds et les atomes légers dépend de la température à laquelle la neige s'est formée. Et donc, on a comme un paléothermomètre. Et donc, on peut regarder véritablement les variations du CO2 ou du méthane en fonction des variations climatiques, puisqu'on a les deux témoins dans la glace. Et on s'est aperçu, c'est vrai, donc la grande surprise à l'époque, ça a été de trouver qu'il y avait beaucoup moins de CO2 et de méthane, d'ailleurs un autre gaz à effet de serre, de CO2 et de méthane, dans la glace qui s'était formée pendant l'âge glaciaire, et puis au contraire dans les périodes chaudes, les périodes interglaciaires, les oasis, tous les 100 000 ans on a un oasis de chaleur, à peu près 10 000 ans, qui dure à peu près 10 000 ans ou un peu plus. Aujourd'hui on vit dans un de ces oasis, et on s'est aperçu qu'effectivement, là, le CO2 et le méthane avaient des concentrations plus élevées. Donc, on a trouvé une bonne corrélation entre climat et composition de l'atmosphère.
C'est à partir de ça, à partir de cette corrélation entre CO2 et température, que on dit aujourd'hui, attention, demain, ça peut être la catastrophe.
Alors non, je ne dirais pas ça, certainement pas.
Quand vous avez une corrélation, après, il faut savoir qu'est-ce qui a déclenché le phénomène. Est-ce que c'est le climat qui a déclenché les gaz à effet de serre ou le contraire? Maintenant, on sait bien que, en fait, la variation climatique, au moins au sud, a débuté avant les changements du CO2 et du méthane. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y avait pas eu ces variations de CO2 et méthane, jamais on aurait eu des amplitudes, des grandes variations telles que les 5 à 7 degrés qu'il faut, de réchauffement qu'il faut pour expliquer qu'on passe d'un glaciaire à un interglaciaire. Donc en fait, on a là des amplificateurs. Ce n'est pas le seul, mais c'est un amplificateur extrêmement important. Et si dans le passé, il a joué ce rôle d'amplificateur, c'est clair qu'aujourd'hui, puisque... c'est plus la nature qui le fait bouger, mais c'est l'homme qui l'envoie directement dans l'atmosphère. Là aussi, il va avoir un rôle évident sur le climat. C'est vrai qu'on n'est pas des devins, on ne peut pas vous dire que ce sera comme ça exactement dans 100 ans. Par contre, c'est un faisceau. Il y a les évidences du passé, il y a tous les efforts de modélisation qui sont faits pour essayer de calculer avec des modèles un petit peu performants ce que devrait devenir notre climat en tenant compte d'un certain nombre de scénarios d'émissions, CO2, méthane, etc. Et bon, on est obligé d'accepter l'évidence parce que c'est les meilleurs outils qu'on ait. La plupart de ces modèles, voire la quasi-totalité, vous disent, ben, d'après ce que l'on sait, dans 100 ans, le climat se sera réchauffé de 1,5 à 6 degrés.
Alors si je prends une moyenne, disons 4, nous sommes à Grenoble en ce moment, aujourd'hui, 4 degrés de plus, après tout, pourquoi pas?
Oui, moi je vous dis la même chose. Par mais... contre, ouais, je crois qu'il y a quand même un mais important. Parce que, contrairement à peut-être à ce qu'on entend très souvent, bien sûr, les conséquences locales sont importantes. Imaginez les gens qui vivent de la neige dans les montagnes. Je comprends que ce soit vraiment une préoccupation, qu'il faut se réfléchir. C'est peut-être un bon élément de réflexion, comment on peut se reconvertir sur d'autres choses dans le futur. On sait qu'on aura encore de la neige dans certaines stations pendant 40 ans, par exemple. Bon, mais après, c'est important. Mais pour vous... pour vous dire mon point de vue de citoyen, non pas une, cette fois-ci, je n'ai plus de compétences scientifiques dans ce domaine-là, le risque, ce n'est pas ce qui me fait peur, parce que je pense qu'on va changer, mais le risque réel, ce sont les conséquences géopolitiques, ce sont les conflits nord-sud, c'est les différences qui vont augmenter, ça me semble assez inéluctable. Je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais... j'ai toujours en tête cet exemple du Bangladesh. Si jamais il faut évacuer 2 millions, 3 millions de personnes dans une zone très difficile où il y a des conflits, etc. Je pense à l'Afrique, oui. Je pense que l'Afrique, et j'espère me tromper, mais je pense que l'Afrique, ça va être très dur. Et donc, si on n'a pas une solidarité, si on n'a pas... Et même si on était égoïste, qu'on dirait rien à foutre de l'Afrique. Mais c'est pas vrai, parce que ce qui se passera en Afrique aura des conséquences, à mon avis, chez nous. Enfin, c'est ce que l'histoire nous apprend. Et en gros, c'est ce que je pense, moi, Dominique Reynaud, en tant que personne de l'humanité, quoi.
Quand il n'a pas les yeux dans la glace.
Ah oui, il aime bien avoir les yeux dans la glace. Et vous pensez pas, moi, les petites bulles, ça, j'adore. C'est vrai.
La moitié de l'humanité se presse sur le littoral, sur des terres qui sont au niveau de la mer ou même en dessous. Des terres menacées de submersion, même si elles sont protégées par des digues, comme c'est le cas aux Pays-Bas. Le Bangladesh, les atolls du Pacifique, mais aussi la Floride, où la Camargue risque d'être noyée. En Afrique, c'est l'avancée du désert qui va chasser les hommes. L'eau et le sable risquent de transformer les habitants des pays les plus pauvres en millions de réfugiés écologiques à la recherche d'une terre d'asile dans les pays riches.
Oui. Il fait combien là?
Là il fait moins 18 à peu près.
Ouf.
Il fait moins 15 à moins 18.
Donc là nous sommes dans un entrepôt frigorifique où à côté de denrées alimentaires comme le fromage, et on trouve aussi les fameuses carottes de glace, les morceaux qui témoignent du climat du passé. Ah, voilà. Ça, c'est les carottes.
Ça, c'est des morceaux de carottes. Ah oui. Ils ont été coupés sur toute la longueur. En fait, chaque équipe, chaque type d'analyse a sa partie de carotte, en fait. Donc là, c'est la partie pour les gaz. Il y a une partie qui est faite pour les poussières, une autre partie qui est faite pour la chimie organique. Donc on est obligé de couper tous les morceaux de carottes sur la longueur afin que chacun prenne bien au même endroit pour les analyses, en fait.
Alors, elle là, est profonde de combien, celle-là?
Alors celle-ci, ça se voit par rapport au numéro, en fait. Il y a marqué 2199, donc comme c'est des carottes de 1 mètre, c'est 2199 mètres.
Et alors 2199 mètres, ça correspond à quelle époque dans le temps?
Alors tout dépend d'où vient la carotte. Il y a certains forages qui sont pas dont la profondeur représente pas la même quantité d'âge, en fait. Donc ce site là, c'est un site donc à Dronningmoetland, donc 2000 mètres, ça doit représenter environ 50 000 ans à peu près.
On va aller là-bas.
Grégory Test est notamment chargé de faire la navette entre l'entrepôt et le laboratoire de glaciologie, une demi-heure de route. Là-bas, nous retrouvons Catherine Ritz. Elle, les carottes qui l'intéressent, sont celles qui viennent des pôles.
Bonjour.
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 Donc je suis Catherine Ritz, je suis chercheure au laboratoire de glaciologie et mon rôle consiste à étudier l'évolution des calottes polaires en réaction au changement climatique, que ce soit dans le passé lointain ou dans le proche futur, ou même lointain futur. Il est clair qu'on est très inquiet pour le devenir du Groenland, qui a toutes les raisons d'être relativement instable vis-à-vis d'un réchauffement climatique, parce que c'est une calotte glaciaire qui est déjà soumise à la fusion estivale sur ses bords, ce qui grignote le bord du glacier. Et de plus, ces dernières années, on s'est rendu compte que les glaciers du Groenland accéléraient, ce qui accroît encore la sensibilité du glacier au réchauffement climatique.
C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils accéléraient, ça veut dire qu'ils descendent de plus en plus vite dans la mer?
Oui. Par exemple, il y a un glacier qui s'appelle le Jakobshavn, qui draine environ 5% du Groenland et qui était le glacier le plus rapide du monde déjà il y a quelques années, où il allait à environ 8 km par an, ce qui est énorme pour un glacier, et il va actuellement à 14 km par an. Donc cette accélération, on pense qu'elle est due au fait que sa partie flottante a disparu, ou du moins a beaucoup reculé, et que cette partie flottante faisait un effet de frottement sur les bords du fjord, et maintenant que le frottement a diminué, le glacier s'est mis à accélérer. Et c'est un peu une surprise. Le consensus chez les glaciologues, c'est si on nous avait dit ça il y a 10 ans, on n'y aurait pas cru. Donc c'est un peu une surprise, et on est tous en train de se demander comment on va tenir compte de cet aspect-là dans nos prédictions sur l'évolution du Groenland dans le futur.
Alors si on reste sur 100 ans, ce qui n'est pas à l'échelle humaine d'ailleurs, c'est plus d'une génération, mais si on reste sur 100 ans, qu'est-ce qu'on peut prédire?
Alors, l'élévation du niveau des mers, les estimations étaient de l'ordre de 20 à 80 cm d'ici un siècle. C'est une sous-estimation. On n'avait pas du tout tenu compte de l'accélération potentielle des glaciers. Et disons que ça va peut-être doubler ces estimations. Donc si on peut s'attendre à 2 mètres d'élévation du niveau de les mers, ça serait vraiment, à mon avis, un grand, grand maximum en un siècle. Ceci dit, c'est énorme. C'est vrai que c'est une très grande quantité d'eau.
Tout à l'heure, vous parliez de l'effet albédo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Est-ce que ça signifie que si le Groenland disparaît, il va accélérer finalement le réchauffement climatique?
Si le Groenland disparaît, ce qu'il y a dessous, c'est de la toundra, qui est verte ou marron, et qui donc va plus absorber l'énergie venant du soleil, ce qui veut dire que, oui, localement, il y aura un effet de réchauffement. Alors, il sera surtout local, et il aura tendance, par exemple, à empêcher une calotte de revenir, parce qu'il fera plus chaud à cause de cet effet.
Parce qu'en fait, le pouvoir de la glace, c'est de renvoyer dans l'espace une partie des rayons qui arrivent sur Terre.
C'est un des pouvoirs de la glace, surtout quand elle est couverte de neige. La glace elle-même est assez foncée vis-à-vis du rayonnement, mais la neige, oui, renvoie l'essentiel de l'énergie vers l'extérieur.
Quand on est chercheur comme vous, est-ce que tout ça, ça fait peur ?
Un petit peu. C'est quand on étudie comme moi à la fois le passé et le futur, on sait qu'il y a d'énormes calottes qui ont disparu. Donc on sait que c'est possible, c'est pas juste un fantasme de calculateur dans son coin. On sait que c'est possible que finalement les calottes glaciaires, même si elles sont énormes, peuvent être plus fragiles que ne pensent les gens en général. Et puis ça fait peur tout court, le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Ce qu'on apprend surtout, c'est qu'on peut s'attendre à des surprises.
Altitude 2080 mètres.
Si la Terre a la fièvre, à qui la faute ? Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, nous envoyons du gaz carbonique dans l'atmosphère. 5,4 milliards de tonnes chaque année. Nos usines, mais aussi le chauffage, les centrales électriques thermiques et les transports, ces voitures-là que l'on entend, contribuent à réchauffer la planète. En France d'ailleurs, les transports sont les premiers responsables, avec 26% des émissions de CO2. Mais le gaz carbonique, c'est un des quatre gaz réchauffants. Le protoxyde d'azote et le méthane, émis par l'agriculture et l'élevage, sont aussi en cause. C'est près de Clermont-Ferrand, au centre de recherche de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, que les scientifiques évaluent la responsabilité des vaches sur le réchauffement climatique. Jean-François Soussana est directeur de recherche. Il travaille sur les liens entre agriculture et climat. Il remarque avec un sourire qu'il a choisi sa voiture en fonction de ses émissions de gaz carbonique. 109 grammes de CO2 au kilomètre parcouru, c'est pas mal.
Quelques flocons de neige, hein. Quelques traces de neige sur les prairies. Bien, alors nous arrivons au site de T, qui est un centre de l'INRA, en moyenne montagne, à 900 mètres d'altitude, qui est dédié notamment à l'élevage, et où on fait des études sur les émissions de méthane par les ruminants.
Et là, nous allons vers les prairies.
Oui, on va entrer dans le centre. Et on va effectivement aller sur des essais. Peut-être que le mieux, c'est que vous sortiez là, et puis je vais essayer de me garer là, mais ça va être un peu difficile après de sortir.
Une vraie étable.
Voilà. Bonjour. Donc Cécile Martin, je travaille à l'INRA de T, dans l'unité de recherche sur les herbivores.
Bien. Alors là, nous sommes dans une étable.
Oui.
Qu'est-ce que c'est comme race de vache ?
C'est des Holstein, des vaches laitières Holstein.
Bien. Et qu'est-ce que vous faites alors comme expérience sur ces animaux-là ?
En ce qui me concerne, par exemple, je mesure la production de méthane qui est émise par les vaches.
Comment elles émettent du méthane ?
Alors ce méthane, en fait, est produit dans le rumen, donc il est situé à l'avant du tube digestif. Il est produit lors de la dégradation des aliments dans ce compartiment.
Quand elles ruminent ?
C'est les micro-organismes, en fait, qui vont dégrader les aliments. Et au cours de cette dégradation, on a production de méthane. Et donc ce méthane, contrairement aux affirmations courantes, est rejeté dans l'atmosphère par voie orale, par éructation, au cours d'éructations régulières.
On va dire les choses clairement quand elles rotent.
Voilà, c'est ça, voilà. Tout à fait.
Et comment faites-vous pour mesurer ça ?
Alors on utilise en fait un gaz traceur, donc qu'on donne par voie orale, qui tombe dans le rumen et qui reste dans le rumen. Ce gaz va se comporter comme les autres gaz de fermentation, donc il va être éructé de la même manière. Et on va, par un système de capillaires,
C'est un capteur, ça ?
C'est un capteur, oui, qui est positionné donc sur un licol. Le licol est positionné sur la tête de l'animal.
Et donc, ce licol, on va dire, pour ceux qui ne montent pas à cheval ou à vache, on va dire c'est un collier, quoi.
Oui, un collier qui est positionné sur la tête de l'animal avec un capteur qui se trouve au niveau des naseaux. Et ce gaz va être orienté et piégé dans une boîte que l'animal porte sur sa tête. Voilà. Quand la prise d'échantillon est terminée, la boîte est transportée au laboratoire pour analyser sa composition en gaz, donc en méthane et en gaz traceur, qui va nous permettre d'estimer la production totale de gaz émis par l'animal.
On dit que ce sont les transports qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Est-ce que la vache qui est devant moi, là, elle est aussi polluante, entre guillemets, que ma voiture ?
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de production de méthane, donc, au niveau agricole et en Europe, c'est le ruminant qui produit le méthane. Si on se replace au niveau mondial, il y a d'autres activités de l'agriculture qui produisent autant de méthane, même plus, c'est par exemple la riziculture. Mais en Europe, c'est le méthane provient de l'activité d'élevage et plus particulièrement des ruminants. Et on sait, via l'alimentation, moduler cette production de méthane. Donc par exemple, si on veut à la fois réduire la production de méthane tout en maintenant une production animale correcte, en termes de production de viande ou en termes de production de lait, on sait qu'un élevage conduit avec en mode intensif, c'est-à-dire avec une ration riche en énergie ou riche en céréales, sera moins polluante, entre guillemets, qu'un système où l'alimentation est uniquement à base d'herbe.
Quelle est la quantité de méthane que peut produire un animal pendant sa digestion ?
Alors par jour, c'est facile. On dit qu'une vache laitière de 600 kg produit à peu près 600 litres de méthane. Un mouton, ce sera 10 fois moins, 60 litres. Donc plus le rumen est gros, plus l'animal ingère, plus la production de gaz sera importante.
Les vaches représentent 3% des gaz à effet de serre. Si on ajoute la contribution des autres animaux et la riziculture, l'agriculture en général est responsable de 26% des émissions mondiales. Les forêts, elles, sont des pompes à carbone. Elles transforment le gaz carbonique en carbone solide, c'est le bois. La forêt française absorbe chaque année le quart des émissions du parc automobile. Ici, chez nous, la forêt grandit, mais ailleurs dans le monde, on défriche pour récolter le bois et surtout pour manger. Les arbres reculent devant les cultures, d'où l'appel du programme des Nations Unies pour l'environnement à planter 1 milliard d'arbres cette année partout dans le monde. Mais cette faculté des forêts à stocker le CO2, donc à lutter contre le réchauffement climatique, est peut-être compromise. Les scientifiques, comme Jean-François Soussana, directeur de recherche à l'INRA, ont fait cette désagréable découverte il y a 4 ans, lors de la canicule.
Pendant l'été 2003, beaucoup de forêts se sont mises à rejeter du CO2. Et lorsque l'on regarde à l'échelle de l'année, on se rend compte que le stockage a cessé et même que cela a pu se traduire par un manque à gagner important qui représentait l'équivalent de 4 ans de stockage de la forêt.
Donc ça veut dire que s'il fait de plus en plus chaud, comme inévitablement ça va se passer, la forêt non seulement ne va plus stocker le carbone, mais en plus elle va en dégager.
C'est un risque dans le cas où on aurait une succession de sécheresses et une succession, disons, de canicules, dont on pense effectivement qu'elles vont se renforcer. C'est un phénomène qui se passe pas seulement en Europe, mais on a les mêmes craintes dans d'autres milieux. Par exemple, en Amazonie, où on pense que si la sécheresse devient trop intense, on perdra complètement cette fonction de stockage, voire on verrait à long terme ce type de forêt disparaître et être remplacé par une autre végétation.
Est-ce qu'on a déjà constaté en France des effets du réchauffement climatique sur la végétation et notamment sur l'agriculture ?
Oui, bien sûr. D'une part, il y a ce que l'on peut observer. Donc ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a déjà des décalages dans des dates clés du cycle de vie des plantes. Par ailleurs, on a fait des expériences pour essayer de simuler, de reproduire, si vous voulez, ce que seraient les effets du changement climatique d'ici 50 ans. En particulier, nous avons une expérience sur la prairie, où nous réalisons les conditions environnementales qu'on aurait pour le centre de la France en 2050, où on aurait un réchauffement en 2050 de plus 3 à 3 degrés et demi, une concentration en gaz carbonique de 550 parties par million, et puis une réduction de la pluie en été d'environ 20%. Lorsqu'on applique ce scénario de changement climatique, on se rend compte qu'on a pratiquement plus de fourrage pendant une partie de l'été, et ça amènerait à des changements profonds dans les systèmes d'exploitation, les systèmes d'élevage, puisqu'il faudrait faire face à ce déficit fourrager, à ce trou fourrager pendant l'été, et nourrir les animaux à cette période. Donc ça, c'est probablement une des choses qui est la plus importante, mais c'est compensé en partie au moins par une production d'herbes qui est plus précoce au printemps et qui est plus tardive à l'automne. En fait, les craintes que l'on a, c'est plutôt sur la biodiversité. C'est-à-dire que ce réchauffement va bénéficier à certaines espèces végétales, mais il va aussi défavoriser d'autres espèces. Donc, un exemple qui a été montré par des collègues de l'INRA à Nancy, concerne le hêtre, où on s'attend à une régression assez rapide du hêtre, compte tenu des conditions climatiques et notamment de la sécheresse.
Si on prend un autre exemple dans l'agriculture cette fois-ci, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on abandonne le maïs au profit d'autres plantes comme le sorgho et que les vignes grimpent jusqu'au nord de la France et qu'elles ne soient plus cultivables au sud de la Loire ?
Oui, alors il faut, disons, dans le cadre de l'agriculture, on a beaucoup de moyens d'action qui permettent probablement de s'adapter, en fait, à ce réchauffement. Donc ce que l'on peut penser, c'est que on aura un problème de ressources en eau, et dans certaines régions au moins, la culture du maïs peut être plus difficile, parce que cela suppose beaucoup d'eau pour l'irrigation, et s'il y a des tensions sur l'eau, il ne sera peut-être pas possible de cultiver autant de maïs que par le passé.
Les études que vous réalisez sur l'impact de l'augmentation du CO2 dans la prairie, c'est dans la serre là-bas qu'on voit ?
Non, ce n'est pas dans une serre, c'est au contraire à l'air libre.
On peut aller voir ?
Oui, très bien.
Alors en fait, ici, c'est un morceau de prairie. On a le droit de passer la clôture, bon d'accord. Voilà, un morceau de prairie. Oula, avec ce que vous pouvez m'expliquer là, c'est quoi ces tuyaux, ces capteurs, à quoi ça sert ?
Oui, alors il y a beaucoup de tuyaux, effectivement. Si vous voulez, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de reproduire 2050 sur une petite surface d'environ 1,5 mètre carré. Alors comment s'y prendre ? Eh bien d'abord il faut réchauffer. Alors on pourrait réchauffer avec des infrarouges, mais ça peut créer quelques problèmes. Alors on s'est dit que finalement, comme on est dans une région de montagne, on pouvait prendre des blocs de prairie et puis leur faire descendre à peu près 400 mètres de manière à obtenir un réchauffement de 3 degrés ou 3 degrés et demi. L'autre facteur, c'est le gaz carbonique, il faut l'augmenter. Et pour ça, on va avoir une fumigation contrôlée avec ce gaz, ça le souffle sur les plantes, et donc ces plantes vont être dans un environnement avec une augmentation en CO2.
Je vois pas bien la différence, à part la couleur peut-être, entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur de l'expérimentation.
Non, on voit pas forcément de différence en cette saison, on est en plein hiver. Maintenant, on pourrait voir des différences dans certains cas. Par exemple, quelque chose qui est tout de même positif, c'est que le CO2 permet aux plantes de mieux résister à la sécheresse. Donc on se rend compte qu'on a une teneur en eau du sol qui peut être un petit peu augmentée lorsque l'on a une sécheresse en présence de CO2 augmenté. Donc vous voyez, il y a toujours des phénomènes qui vont dans un sens inverse. On s'attend avec le changement climatique à avoir des sécheresses accrues, mais il est vrai que les plantes vont pouvoir un petit peu compenser cet effet grâce à l'augmentation du CO2 qui leur permet, en fermant leurs stomates, de mieux résister à la sécheresse.
Leurs stomates, en fait, c'est un peu l'équivalent des pores de notre peau.
Voilà, c'est des pores qui sont contrôlés et disons que quand la plante commence à ressentir une sécheresse, elle les ferme pour conserver son eau.
Certitude et incertitude face aux surprises que nous réserve la nature, C'est le lot quotidien de ces milliers de chercheurs qui, à travers le monde, étudient le réchauffement climatique. C'est donc à partir de demain que les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat se retrouvent à Paris. Ils remettront leur rapport vendredi, jour choisi par le président Jacques Chirac pour lancer un appel solennel à la création d'un ONU environnement. Et nous vous donnons rendez-vous ce vendredi sur notre antenne pour une journée spéciale climat. L'équipe du 7-9 avec ses invités sera en direct de la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Le climat sous pression, c'était un reportage de Nathalie Fontrelle. Réalisation Nathalie Salle, assistante Audrey Ripouille, mixage Benjamin Vignal. Sur notre site internet franceinter.com, vous trouverez des informations, des liens et des livres sur ce sujet. Vous pouvez aussi réécouter cette émission.